Bonsoir. La proposition a vrai dire de réfléchir sur une postérité de Shining, sur un après Shining. Cette idée m'avait été suggérée par Bernard Benolial qui a présenté cette conférence. J'ai donc commencé comme ça à réfléchir sur cette question et ça aurait pu m'inciter à scruter le corpus des films d'épouvante, des films d'horreur réalisés depuis le début des années 80, qui est la date de sortie de Shining, pour essayer de voir dans quelle mesure le film de Kubrick constituait soit un joyau isolé, soit un réservoir d'images et de situations qui en aurait fait une sorte de film matriciel pour le cinéma de genre. Alors, peut-être il faut dire justement quelques mots du rapport de Kubrick au genre, au cinéma de genre. Avec Shining, Kubrick adopte vis-à-vis du cinéma dans son ensemble, c'est-à-dire de tous les films qui ont pu être tournés avant lui, une stratégie qu'il a en fait adoptée dans d'autres circonstances et qui consiste à s'attaquer à un genre relativement bien identifié et par définition même de la notion de genre codifié. Science-fiction avec 2001 les Odyssées de l'espace, film de guerre avec Full Metal Jacket ou Les Sentiers de la Gloire, film noir dans la catégorie hold-up raté pour Ultime Razzia, et puis fantastique, épouvante pour Shining et l'adaptation donc d'un roman de Stephen King. Donc Kubrick, dans ces circonstances-là, s'inscrit dans un genre et en même temps, comme à chaque fois, il s'y introduit avec la malice du renard qui s'introduit dans le poulailler ou, si vous voulez, avec la férocité du loup dans la bergerie, c'est-à-dire que son inscription dans un genre vise en même temps à manifester sa singularité, sa maîtrise des codes du genre et en même temps d'affirmer sa liberté et même souvent son ironie mordante vis-à-vis d'eux. Donc liberté et ironie trouvent à se combiner et à se manifester dans Shining avec un équilibre subtil puisque l'ironie pourrait dynamiter le genre et le mettre en échec finalement alors qu'il s'agit en même temps d'en soutenir l'efficacité. Je voudrais tout de suite commencer par un extrait qui vous montrera ce que peut être justement l'ironie périlleuse de Kubrick vis-à-vis du genre, donc extrait de Shining.
Fucking mind.
No! It's the truth, really! I swear it! Danny told me! He went up into one of the bedrooms. The door was open and he saw this crazy woman in the bathtub. She tried to strangle him!
Which room was it?
From Channel 10 in Miami, this is Newswatch with Glenn Rinker and Bishop and the award-winning Newswatch team.
Good evening, I'm Glenn Rinker, Newswatch 10. While Miami continues to swelter in a record winter heat wave, bringing temperatures to the mid and upper 90s, the central and Rocky Mountain states are buried in snow. In Colorado, 10 inches of snow has fallen in just a few hours tonight. Travel in the Rockies is almost impossible. Airports are shut down, stranding thousands of passengers. Highways are blocked by snowdrifts. Railroad tracks are frozen. Officials in Colorado tell Newswatch at least 3 people have been killed by exposure to freezing winds. The governor of Colorado is expected tomorrow to declare a weather emergency. The National Guard might be called out to clear streets and roads. Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow, with temperatures dropping well below zero. Back here in South Florida, we've got just the opposite problem. The heat and humidity are supposed to climb. Local beaches should be jammed. Our weather expert, Walter Cronice, will have the local forecast later on this watch. The Miami City Commissioner said...
Thank you.
dans l'ironie du personnage interprété par Nicholson, mais en fait, ce qui me frappait là dans cet extrait, c'est surtout l'effet de coupure pub produit par la télévision filmée plein cadre, et ce moment-là très provoquant, vraiment, d'interruption de son film par une image de publicitaire et télévisuelle me frappait aussi peut-être d'autant plus que j'avais en tête déjà en revisionnant le film la présence massive de la télévision chez d'autres cinéastes dont j'avais l'intention de parler et qui sont Haneke et Gus Van Sant. Mais ce premier extrait, c'est pour souligner que Kubrick donc fait son nid dans le cinéma de genre avec ironie, mais aussi pour y pondre un œuf aussi unique que le monolithe noir de 2001, un ovni dont le destin semble plutôt de rester sans postérité. Donc ce serait plutôt question de la postérité. Et finalement, si on considère le cinéma de genre, finalement, il me semble que la piste n'est pas très féconde. Et finalement, en me posant la question justement de films qui pouvait entretenir un lien quelconque avec Shining, après Shining, au-delà justement des codes du genre auquel Shining emprunte, eh bien, je me suis finalement retrouvé à penser à des films qui avaient en commun avec Shining, si on peut dire, de constituer des cas isolés. Autrement dit, le superbe isolement des films de Kubrick m'a plutôt conduit à penser à d'autres films, à d'autres auteurs qui se signalent aussi plutôt par leur isolement, par leur forte individualité. Trois cinéastes nettement estampillés comme auteurs, chacun avec des idiosyncrasies visuelles, sonores, très marquées, et qui constituent donc des signatures de leurs films. Donc en l'occurrence, ces trois cinéastes, ce sont David Lynch, Michael Haneke et Gus Van Sant. On pourrait dire trois cinéastes de l'image aussi, au sens où chacun d'eux semble s'ingénier concevoir dans ses films une image, ou un petit nombre d'images, ou de raccords d'images, qui atteignent dans leur film une sorte d'intensité maximale qui va imprimer durablement cette image ou ce raccord ou ce petit ensemble dans la conscience du spectateur, comme des points de fixation, des points d'interrogation, des cicatrices. Il y a chez ces trois cinéastes comme ça des sortes d'images signatures qui s'impriment dans la mémoire du spectateur. Et l'objet donc de cette conférence, du coup, est un peu paradoxal et acrobatique puisqu'il cherche à établir des liens entre des œuvres et des cinéastes dont il est entendu en même temps qu'ils sont irréductiblement singuliers. Donc c'est un propos qui a des allures contradictoires, puisque j'entends bien établir des connexions, et en même temps sans jamais chercher à minorer leur singularité. Donc ce sera parfois aussi autour de problématiques communes, des points d'écart, des moments de convergence et d'écart, d'où le côté un peu élastique, acrobatique éventuellement de cette conférence. Alors il faut dire que chacun de ces trois cinéastes donne une certaine légitimité à ma démarche, par le fait qu'ils se sont tous les trois référés au moins une fois explicitement au cinéma de Kubrick, soit au travers de leurs propos, soit au travers de leurs films, dans des moments qui s'apparentaient véritablement à des citations assez claires du cinéma de Kubrick. Donc je vais préciser dans un instant ces éléments qui donnent une certaine légitimité à mon rapprochement. Mais je voudrais d'abord revenir sur l'intitulé de ma conférence, le cinéma, le monde, le cerveau, c'est-à-dire en fait une référence à Gilles Deleuze, qui dans un chapitre de L'Image-Temps, identifie une catégorie de films qu'il appelle le cinéma du cerveau. Et parmi les cinéastes qui relèveraient de cette catégorie, il y a notamment Alain Resnais et Stanley Kubrick. Alors le cerveau est envisagé par Deleuze comme une membrane qui met en contact le dedans et le dehors. Et dans le cas de 2001, le dedans, le dehors, mis en contact, serait d'un côté une psychologie, je le cite, Deleuze, une psychologie des profondeurs, et d'autre part, pour le dehors, la cosmologie des galaxies. Dans Shining, à une échelle plus modeste, celle d'un hôtel, eh bien, on aurait donc d'une part des forces occultes associées à cet hôtel, donc à un espace, à un lieu qui constitue en fait le monde complet de Shining, puisque les personnages vont être coupés du monde, et le monde, ce sera cet hôtel, l'hôtel Overlook. Donc d'un côté, cet univers-là, et puis d'autre part, deux cerveaux, celui de Jack, le père, et celui de son fils, Danny. Et Deleuze demande comment décider ce qui vient du dedans et du dehors, perception extrasensorielle ou projection hallucinatoire. Et dans cette incertitude, on reconnaît effectivement Shining dans cette incertitude, dans cette question formulée par Deleuze. Dans 2001 et dans Shining, les lieux sont clos, très peu peuplés, quelques personnes dans un immense vaisseau spatial, quelques trois personnes dans un gigantesque hôtel vidé de ses occupants habituels, comme des boîtes crâniennes. Enfin, la métaphore, l'idée de Deleuze prête à cette pensée-là. Des boîtes crâniennes, vaisseau spatial, hôtel isolé dans la montagne, et puis en même temps, sont des lieux qui abritent une conscience. L'ordinateur HAL, cet ordinateur intelligent, et puis éventuellement ces esprits maléfiques dans l'hôtel Overlook. De sorte que finalement la conscience, elle cesse d'être confinée dans des personnages pour s'étendre à des lieux, elle les investit invisiblement, elle réside dans l'architecture même des lieux, ou alors elle prend place dans un lieu à la façon d'un édifice, et là je pense au monolithe noir de 2001 qui va être le point de départ, l'étincelle de l'intelligence humaine, qui est d'abord donc un édifice posé dans un lieu. Donc c'est aussi ce qui explique cette importance accordée au lieu comme investi d'une conscience et autonome finalement, que j'aurai l'occasion dans cette conférence de vous montrer quelques images, quelques captures d'images, de lieux dépeuplés. Donc je reviendrai beaucoup sur la question de l'espace. Il y a donc un génie des lieux chez Kubrick qui me paraît aussi très important chez David Lynch. En particulier dans le film et la série Twin Peaks, sur laquelle je reviendrai, et aussi chez Gus Van Sant, et en particulier dans un des films dont je parlerai le plus chez Gus Van Sant, qui est Elephant. Chez Haneke, ça fonctionne de façon un petit peu différente. À vrai dire, les associations des cinéastes dont je veux parler fonctionnent selon la question, selon le problème abordé, de façon un petit peu différente. Alors, dans le cas de ce génie du lieu, chez Haneke, ça fonctionne un peu différemment, mais il y a deux films qui peuvent retenir l'attention, Funny Games et Le Septième Continent. Ce sont deux films d'enfermement, deux films où le lieu devient davantage qu'un lieu. Dans Funny Games, notamment un moment, vous savez, un moment assez saisissant du film, où l'un des protagonistes du film se saisit d'une télécommande et rembobine le film même que auquel nous avons assisté. Ce qui d'un seul coup renverse la question du dedans et du dehors, ou en tout cas pose la question de ce que serait que le dehors du film, comme si le film pouvait s'englober lui-même. C'est très troublant. Alors ce sont deux films d'enfermement, en même temps deux films où le lieu devient autre chose qu'un lieu, ou un lieu extrêmement problématique. Et dans Funny Games, du coup, on en arrive à penser ce lieu comme une sorte d'image mentale, ou en tout cas peut-être pas mentale, une image qui serait entièrement soumise à des fantasmes sadiques de deux meneurs de jeu, qui serait à la fois inclus dans le jeu et en même temps qui, de l'intérieur même du jeu, aurait la capacité de renverser le cours des choses, de l'espace et du temps dans lequel il s'inclut. Et dans Le Septième Continent, on a une somme de possessions matérielles qui donc tiennent dans un pavillon habité par un homme, une femme, un enfant. Et cette famille, on la voit vivre dans le film, et puis à un moment donné, ils s'enferment. Ils ne quitteront plus ce lieu. Ils ont annoncé à leur connaissance qu'ils partaient en Australie. Et en réalité, ils s'enferment chez eux. Je reviendrai sur cette question-là. Je rentrerai dans le détail. Mais en tout cas, voilà en tout cas un film où la question du lieu, de l'enfermement, avec, comme dans Shining, la cellule familiale, l'homme, la femme, l'enfant, cellule élémentaire, comme élément, disons, central de cet enfermement, ceci donc on le trouve chez Haneke. Donc dans ma conférence, il sera question de lieu, d'espace mental, et il sera question aussi de la violence que ce lieu héberge, violence qu'on trouve dans chacun de ces trois des films auxquels je pense. Donc violence chez Haneke, sans aucun doute, violence dans Elephant, évidemment aussi, puisque le film est inspiré d'un fait divers très connu qui s'est déroulé aux États-Unis, à savoir le massacre perpétré avec des armes de combat par deux adolescents en 1999 dans un lycée, le lycée de Columbine. Et puis violence dans Twin Peaks, le film de David Lynch, alors je pense même un peu plus au film là qu'à la série, violence morale, violence physique infligée à une jeune fille, au cœur, là encore, de la cellule familiale, et où la figure du père, comme dans Shining, vient à se confondre avec la figure du mal. Donc voilà pour poser un petit peu les points à partir desquels je vais orchestrer, disons, repérer des ressemblances, orchestrer des rapprochements entre ces différents cinéastes. Alors avant ça, je voudrais revenir aux références explicites dont je parlais tout à l'heure. Je disais que chacun de ces trois cinéastes était référé explicitement à Kubrick et donnait une certaine légitimité à mon hypothèse. Alors je vais commencer par David Lynch. Dans un livre d'entretien avec David Lynch, Chris Rodley fait un moment une remarque. Il émet le sentiment que les figures qui ont été peintes par David Lynch, puisque Lynch est cinéaste et peintre, donc là il s'agit des figures peintes, eh bien qu'elles ont toutes quelque chose de malingre, de fragile, qu'elles semblent devoir éprouver les plus grandes difficultés à faire les choses les plus simples. Et il donne, dans la série Twin Peaks, cette fois dans les films, l'exemple de la séquence où le détective Dale Cooper et le shérif Harry Truman essaient laborieusement de régler un tabouret, alors qu'ils sont au chevet d'une jeune fille, Renette Pulaski, à peine sortie du coma, et dont le témoignage pourrait être capital dans l'enquête sur le meurtre de Laura Palmer. Donc, situation tout à fait dramatique, et dans laquelle il se trouve finalement obligé de s'occuper d'un tabouret. Et à cette remarque que fait donc ce critique, eh bien David Lynch répond qu'un de ses films préférés est Lolita de Kubrick, et qu'il s'est précisément souvenu, au moment de tourner la scène du tabouret de Twin Peaks, d'une scène qui est à ses yeux l'une des meilleures de Lolita, qui est celle du lit de camp, que je vous propose de voir tout de suite, et on verra ensuite la scène de Twin Peaks évoquée par Chris Rodley.
We did it, sir. Thank you, sir.
The cat came.
Yes.
Well, good night.
Voilà, donc je rappelle que la situation est en fait très scabreuse. Voilà un homme mûr qui a épousé une femme uniquement parce qu'il convoite la fille de cette femme, qui a la chance de voir cette femme mourir accidentellement en traversant la rue, mais par sa faute, et qui ensuite kidnappe quasiment cette jeune fille et n'attend qu'une chose, c'est de coucher avec elle. Et Nous avons ensuite cette première nuit d'hôtel qui devient une scène de comédie avec ce lit pliant. On va voir maintenant la scène donc de Twin Peaks, épisode 9 de la série, donc transposition par Lynch de cette séquence. Alors, David Lynch explique à Chris Rodley qu'un objet tel qu'un lit pliant dans Lolita ou un tabouret dans Twin Peaks, un objet inamical, compliqué à utiliser et requérant de l'attention au plus mauvais moment, introduit dans la scène à la fois de la tension, une sorte d'humour absurde, et en même temps constitue une vérité indiscutable de l'existence. Donc on touche là en réalité à une forme très particulière de réalisme, qu'on pourrait qualifier de lynchien, et qui accorde donc une prime au caractère justement dysfonctionnel de la réalité. Et David Lynch ne cesse, en un sens, d'explorer des figures plastiques et narratives du dysfonctionnement, qui font que ces moments-là sont beaucoup plus, à mes yeux, finalement, que des petites pauses ludiques, récréatives dans un film très dramatique ou dans une série très dramatique, mais sont les indices d'un certain rapport dysfonctionnel, à la réalité dysfonctionnelle chez David Lynch. Et il y a chez David Lynch justement des dysfonctionnements majeurs et tragiques, comme par exemple dans Eraserhead, le bébé monstrueux du film, ou dans Blue Velvet, l'oreille coupée au milieu du gazon d'une petite ville tranquille qui ouvre le film, ou encore dans Twin Peaks, Fire Walk With Me, la transformation d'un père de famille en prédateur pervers, ce qui nous rapproche de Shining. Mais il y a aussi les dysfonctionnements tragicomiques, ces dysfonctionnements qui rendent tragique le comique et comique le tragique, dont on vient de voir un exemple, mais dont on peut trouver des exemples encore plus frappants chez Lynch. Et je voudrais donc vous en montrer un autre exemple dans Twin Peaks encore, épisode 3 cette fois. Il s'agit de l'enterrement de Laura Palmer. Vous voyez, c'est extrêmement grinçant. Et donc ces moments, alors, vraiment sont tragicomiques, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il arrive à tenir ensemble les deux dans l'enterrement, c'est réellement tragique, il y a un réalisme du dysfonctionnel, et en même temps c'est drôle, c'est pathétiquement drôle, et renforcé par le commentaire et la petite imitation en miniature qui vient juste après. Ceci alors qu'il y a véritablement une figure oratique de Laura Palmer dans la série. Donc il s'attaque, Lynch ici ne craint pas finalement de démolir cette figure pivot du film en massacrant, disons, son enterrement. Et de fait, il ne massacre pas du tout cette figure, mais néanmoins, il met en place quelque chose de tout à fait particulier. Alors, ce caractère tragicomique, il est assez caractéristique aussi de la tonalité générale de Lolita, au-delà de la séquence du lit pliant que je vous ai montré. Et on pourrait dire que, dès le casting même du film, Kubrick, finalement, rend possible cette combinaison grinçante. James Mason, Shelley Winters, Peter Sellers, avec l'orientation donnée à chaque protagoniste, porte témoignage de ce travail sur le tragicomique. Shelley Winters, dans La Nuit du Chasseur, joue un rôle très comparable à celui qu'elle interprète dans Lolita. Disons qu'elle est déjà une figure qui est à la fois pathétiquement crédule et pathétique dans l'humiliation, pathétique d'être ridicule dans une revendication qui pourtant est totalement légitime, c'est la revendication de sa libido face au puritanisme de son mari, puisqu'elle se marie à Robert Mitchum, prédicateur et serial killer dans La Nuit du Chasseur. À James Mason, donc, qui n'en veut qu'en réalité qu'à sa fille, dans Lolita, et elle mourra tragiquement dans les deux cas, assassinée par son mari, ou quasiment indirectement aussi dans le cas de Lolita. Donc figure à la fois pathétique, ridicule, tragique, tragicomique. Quant à James Mason, lui aussi très ambivalent dans ses rôles, c'est-à-dire qu'il a pu dans d'autres rôles incarner la distinction, l'intelligence, mais aussi très souvent l'excès, la torture morale, voire l'hystérie. On peut penser à Derrière le miroir de Nicolas Ray, notamment une scène où, dopé à la cortisone mais sans le savoir, il se met à jouer frénétiquement au football américain dans le salon de sa maison comme un gamin. Rouge de fatigue, d'excitation. Bon. Et donc ici, c'est à la fois tragique et comique aussi. Donc dans Lolita, le personnage interprété par Mason, il est à la fois une figure cynique, en même temps pataude, manipulatrice, et puis finalement brisée de douleur à la fin du film. Et puis Peter Sellers, c'est bien, comme dans le Docteur Falamour, il est le pitre ultime, le grand pitre qui apporte la surdose de farce à cette tragédie. Donc le choix de ces trois comédiens indique déjà l'orientation particulière, la combinaison particulière, il me semble, que Kubrick donne à Lolita. Mais ce que je dis de Lolita, il me semble, reste tout aussi vrai de Shining, dont l'une des nombreuses touches personnelles de Kubrick par rapport au roman tient notamment à l'interprétation de Shelley Duvall, qui livre une interprétation très ingrate de la peur. C'est-à-dire que ce qui est figuré, c'est vraiment la peur sous son jour, pas du tout, qui ne suscite pas du tout la compassion ou l'apitoiement, mais plutôt une sorte de distance moqueuse, alors qui est moquerie, qui est jouée là par le personnage interprété par Nicholson, on l'a vu déjà dans le premier extrait, mais qui prête souvent à rire chez les spectateurs qui voient le film, rire un peu nerveusement, c'est entendu, rire comme on peut rire quand on est dans une situation de stress et de peur, mais néanmoins, rire qui nous fort peu compatissant à l'égard de cette femme. Et en face donc de cette forme d'interprétation-là, eh bien, il y a l'expression carrément bouffonne du sadisme incarné par Nicholson. Bien. Alors, si vous voulez, on a là un trait qui me semble assez kubrickien, qui est travaillé et, disons, repensé, creusé par Lynch, et sans doute en creusant davantage du côté du contraste entre ce caractère, disons, tragicomique, et puis l'expression paroxystique des émotions, comme on a pu le voir aussi dans la scène du cimetière, c'est-à-dire ce moment où les deux garçons se jettent comme des animaux sauvages l'un sur l'autre, avec une espèce de béance, de faille qui s'ouvre dans l'espace-temps du film, par le ralenti aussi sonore. Donc il y a là quelque chose qui est apporté par Lynch. Alors, ceci pour donc établir quelques connexions déjà entre Lynch et Kubrick. Maintenant, j'en viens à Michael Haneke. Haneke, dans un entretien de 2007, se réfère également à Kubrick. Il dit qu'il est très fan de Kubrick, mais il a quand même un reproche à lui faire. Il dit qu'il trouve que Orange Mécanique est une erreur de calcul. Il dit « La violence y est si spectaculaire, tellement stylisée avec les numéros de danse, etc., que vous êtes presque forcé de l'admirer. » Il dit encore « J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que Kubrick avait été dévasté en voyant comment les spectateurs réagissaient à Orange Mécanique et qu'il avait même essayé d'empêcher la sortie du film. » C'est devenu un film culte parce que le public trouvait cette violence hyper stylisée, très cool, et ce n'est certainement pas ce que Kubrick avait souhaité. Il était, je cite toujours Haneke, il est extrêmement difficile de montrer la violence à l'écran de façon responsable, je ne me crois pas plus intelligent que Kubrick, mais j'ai l'avantage de faire mes films bien après les siens, j'ai énormément appris de ses erreurs. Référence donc ambiguë, en forme d'hommage, mais en même temps critique, et elle indique un positionnement donc par rapport à Kubrick, mais pour faire autrement, et même pour faire mieux, par rapport à une question particulière qui est celle de la représentation de la violence. Les films de Haneke, alors c'est Funny Games qui paraît le plus évidemment proche d'Orange Mécanique, mais au regard justement du désir de Haneke de se démarquer de Kubrick dans le traitement de la violence, c'est sans doute pas le plus abouti. Et on pourrait lui faire quelques reproches également comparables à ceux qu'adresse Haneke à Kubrick. Donc on y décèle en tout cas la reprise et le développement d'une situation qui était développée dans une des séquences seulement d'Orange Mécanique, c'est-à-dire la violation de domicile et la persécution d'un couple. Dans Funny Games, c'est plus un couple, c'est donc une famille, où l'un des deux est pris à témoin des persécutions infligées à l'autre. Et on devine aussi une réminiscence d'Orange Mécanique dans la représentation stylisée des deux tortionnaires, avec, on va voir une diapositive que je mets en rapport Orange Mécanique et Funny Games, une réminiscence donc dans la représentation stylisée des deux tortionnaires avec leurs gants blancs, leur bonne conscience vis-à-vis de la violence qu'ils exercent. Voilà. Donc en haut, Orange Mécanique, en bas, Funny Games. Je voulais faire apparaître simplement le costume, les petites parentés de costume et de stylisation des deux personnages. Donc, je le disais, au lieu d'un couple, comme dans la séquence d'Orange Mécanique, c'est la cellule familiale, père, mère, enfant, qui est cette fois prise pour cible, comme dans Shining, avec cette question aussi épineuse qui est quel mal s'autorise-t-on à faire comme cinéaste à un enfant dans un film? C'était une question que se posait aussi Hitchcock dès ses films anglais. Et la séquence d'ouverture du film et de présentation de cette cellule familiale apparaît d'ailleurs aussi comme une citation de Shining, pour dire que ce film semble combiner deux références, Shining et Orange Mécanique. Je vous propose donc de le vérifier en regardant deux extraits. On va commencer par un extrait de Shining, puis on verra ensuite la scène d'ouverture de Funny Games. Donc.
Should have eaten your breakfast.
We'll get you something as soon as we get to the hotel, okay?
Okay, Mom.
Hey, wasn't it around here that the Donner Party got snowbound?
I think that was farther west in the Sierras.
What was the Donner Party?
They were a party of settlers in covered wagon times. They got snowbound one winter in the mountains. They had to resort to cannibalism in order to stay alive.
You mean they ate each other up?
They had to, in order to survive.
Dad, don't worry, Mom. I know all about cannibalism. I saw it on TV.
See? It's okay. You saw it on the television.
Yearly. Still got it?
Beinahe. Yearly is so leicht.
Tebaldi.
Gewonnen.
Jetzt bin ich dran. Nicht schauen.
Tu ich gar nicht.
Hat der Papa geschaut? Soll ich das glauben?
Mhm.
Okay.
Oh Gott. Jilly.
Das ist ja klar. Aber womit?
Ist die neu?
Scheiß so. Also, mein Lieber.
Klingt nach Händel.
Richtig, aber was?
Keine Ahnung.
Also.
Ich geb's auf. Was ist es?
3-2 für mich.
Also, was ist es?
Perfekt. Hör auf, hör doch zu.
Yeah.
Kaya!
Voilà, donc la petite cellule familiale dans sa voiture, prise dans l'immensité sublime du paysage et minée de l'intérieur. Alors, enfin, de l'intérieur dans le cas de Shining où le cannibalisme surgit de la conversation. Et puis assassiné presque musicalement, on pourrait dire, par Haneke dans Funny Games. Si on peut assassiner musicalement, c'est ce qu'essaye de faire, semble-t-il, Haneke, par ce saut musical subit, qui en même temps pourrait être une référence à Orange Mécanique, puisque un mélomane comme Haneke a bien dû ressentir aussi avec force l'une des violences du film de Kubrick, qui est la violence infligée à la musique de Beethoven, transposée au synthétiseur, passée en accéléré, littéralement massacrée, une torture pour l'oreille, ce dont Haneke a peut-être eu le souvenir, et donc lorsqu'il a réalisé Funny Games. Donc, on peut aussi imaginer qu'on a là une forme de transposition de cette agression infligée à la musique de Beethoven dans la façon dont Haneke utilise ici la musique pour ouvrir son film et assassiner aussi par les titres, les cartons du générique rouge sur l'image de l'homme, de la femme et de l'enfant. Donc, on va dire double assassinat. Je reviendrai plus tard sur un autre film de Haneke, donc Le Septième Continent, qui se saisit également de cette cellule, tout en la réélaborant de façon plus personnelle le traitement de la violence. J'en viens maintenant à Gus Van Sant, troisième cinéaste dont je voulais parler, et toujours avec la question de la violence, qui est au croisement, qui est une composante importante du cinéma de Gus Van Sant, qui prend des formes très diverses dans ses films. Violence, par exemple, dans Harry Milk, biopic d'un militant homosexuel mort assassiné. Violence dans Jerry, avec les deux garçons en train de mourir à petit feu dans le désert, n'arrivant pas à retrouver leur chemin. Violence dans Last Days, qui met en scène les heures qui précèdent un suicide. Violence dans Paranoid Park, où Gus Van Sant choisit de figurer aussi par une image très brutale la mort accidentelle d'un homme qui est coupé en deux par le passage d'un train. Et cette image est montrée de façon très directe par Gus Van Sant. Et puis violence évidemment dans Elephant. Mais ce qui fait de plus immédiatement lien avec Shining, c'est le lieu dans lequel fait irruption cette violence. L'hôtel Overlook d'un côté, le lycée d'autre part dans Elephant. Deux grands espaces, paisibles, labyrinthiques. Je vous montrerai tout à l'heure quelques images des deux lieux. Certaines se ressemblent de façon assez frappante. Et ce qui fait lien aussi de l'un à l'autre, outre certains aspects de ces lieux, c'est aussi bien sûr la façon dont la caméra évolue à l'intérieur. Et un des traits esthétiques vraiment marquants du film de Gus Van Sant, qu'on n'oublie pas une fois qu'on a vu le film, paraît prolonger et pousser plus loin encore un trait esthétique également mémorable dans Shining, c'est-à-dire, vous savez, la circulation fluide prolongée de la caméra dans le sillage d'un personnage le long de vastes corridors, ceux du lycée ou les couloirs de l'hôtel dans l'un et l'autre film. Donc je vous propose de vous le remettre en mémoire par deux split screens. On verra une image fixe d'un film, d'un des deux films, puis l'image en mouvement de l'autre, et puis on inversera ensuite.
Over.
Okay.
Hey, what are you guys doing?
Just get the fuck out of here and don't come back.
This heavy shit's going. What are you doing?
When the electrons jump from one orbital to like another one, what?
On peut supposer que Gus Van Sant était parfaitement conscient de cette similitude, même s'il la partage aussi avec un autre film qui s'appelle Elephant, dont il a repris le titre. Parce que Gus Van Sant est le titre même du cinéaste référentiel, tout à fait conscient des références qu'il injecte dans ses films. Vous savez qu'en particulier, il est l'auteur d'un remake de Psychose qui s'apparente presque, enfin, davantage à une œuvre d'art conceptuelle qu'à un remake au sens commercial et plus classique du terme. D'ailleurs, Elephant emprunte d'autres traits à Shining, en particulier ces intertitres très sobres en blanc sur fond noir, que vous avez pu voir un exemple, et puis aussi un événement particulier que je ne mentionnerai pas ici, par égard pour ceux qui n'auraient pas encore vu Shining, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais enfin, je ne peux pas prendre le risque. Donc on peut aussi aller plus loin en avançant que Gus Van Sant confère au lycée d'Elephant un côté station orbitale, d'une part en raison de sa clôture, mais surtout en raison des ralentis qui interviennent à l'intérieur même des plans. C'est l'une des forces de du film, donc à l'intérieur même des plans, et qui viennent subitement, de façon tout à fait imprévisible, alléger les corps, suspendre les trajectoires. Vous en avez vu un exemple avec le geste accompli par le personnage qui fait le saut du chien, et qui précède juste d'ailleurs le moment où le personnage va croiser les deux futurs tueurs. Donc ces effets d'allègement du corps, de suspension de trajectoire, qui donnent au spectateur le sentiment de flotter. En ce sens, le lycée d'Elephant serait une sorte de mix à la fois de l'hôtel Overlook et du vaisseau spatial de 2001, mais ça montre aussi, d'une certaine manière, chez Kubrick, qu'il y a une sorte de reprise de la formule du lieu comme vaisseau spatial, espace clos, aussi bien dans 2001 que dans Shining. Alors, il y a aussi un motif qui m'intrigue beaucoup chez Gus Van Sant, mais on le trouve justement chez Haneke, dans Shining. Alors je voudrais justement en dire quelques mots. C'est le motif de la gémellité. Quelque chose donc qui n'est pas sans rapport avec Shining. Mais cette fois, je ne sais pas s'il s'agit d'un lien intentionnel. En tout cas, c'est la figure de la gémellité, mais on pourrait dire comme figure mortifère. On va regarder quelques diapositives illustrant ça. Donc, on a vu l'extrait il y a un instant, les jumelles de Shining, mais je vais vous montrer quelques autres occurrences. Trois proviennent de Gus Van Sant, en haut à droite, Elephant, en bas à gauche, Jerry, en bas à droite, Last Days, et par contre, Funny Games, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, en haut à gauche. Car les films à la fois sont très différents, mais disons que ce qu'il y a là de frappant, c'est cette gémilité mortifère, les jumelles de Shining comme une sorte de présage funeste, le couple d'assassins d'Elephant comme deux anges exterminateurs, les deux personnages de Jerry qui portent tous deux le même nom, comme si l'un des deux était le compagnon imaginaire de l'autre, comme si la réalité effective des deux était douteuse, et puis deux vendeurs de Bibles dans Last Days qui sont à vrai dire inoffensifs, mais qui sont aussi totalement insolites, déplacés, et dont la singularité, la façon dont ils sont filmés, le fait qu'ils portent le même costume aussi, vient souligner cette gémilité et presque la transformer en clonage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple gémilité, mais de quelque chose de beaucoup plus troublant qui est produit dans ces films. Le même costume, hein, costume noir, costume blanc, les visages qui tantôt se superposent, tantôt se décalent dans Jerry, hein, et qui à chaque fois tire finalement la question, ce dédoublement du côté justement du double, du clone, beaucoup plus que d'une simple, plus encore que d'une simple, du côté de la simple gémellité. Donc ces deux vendeurs de Bible sont tout à fait inoffensifs, mais insolites, déplacés, et portant avec eux cette singularité, donc de ce côté cloné, dédoublé, en sorte qu'ils deviennent comme l'indice possible d'un désordre qui serait plus profond, plus grave dans le film. Bien. Alors, dans Funny Games, ce couple d'assassins, on voit bien aussi que c'est un couple de clowns, un couple de pitres, que la référence au cirque, elle me semble assez claire dans le film, avec une distribution des rôles, le personnage plus pato, l'autre plus cinglant, le gros, le maigre. Il y a une distribution tout à fait clownesque dans ces deux rôles, mais elle fonctionne aussi comme couple de jumeaux, rendus semblables par leur costume, par leurs gants blancs, et qui finalement suggère aussi l'idée d'un possible dédoublement d'une figure unique, figure presque théorique du joueur, sans conscience, parfaitement sadique et immorale, et qui se trouverait en quelque sorte dédoublé dans ces deux figures. Alors, qu'y a-t-il d'inquiétant dans cette figure gémellisée de la mort ? Il y a plusieurs pistes possibles, j'ai pas de réponse certaine, mais ça m'intrigue. Peut-être au fait que la mort, c'est en principe ce qui se vit absolument solitairement, ce qui rétrospectivement aussi reconstruit notre vie comme singulière, comme destin, comme le notait Pasolini. Autrement dit, donc, ce qui nous confère une singularité, une unicité. Et il y aurait donc une anomalie à figurer la mort, ou l'annonce de la mort, comme sous la forme d'un dédoublement. Mais en même temps, menace de la gémilité dans la mesure où dans le dédoublement, il y a aussi possiblement la menace ou le soupçon que l'un est en trop et que l'un donc doit être éliminé. Soupçon peut-être aussi du double comme possible projection du cerveau de l'autre, objectivation d'un fantasme. Et puis encore, peut-être menace d'une duplication à l'identique qui serait éprouvée comme contre-nature ou ressentie comme un désordre dans l'ordre naturel des choses. Bien. Ce qui me poussait aussi à m'attarder sur cette figure de la gémellité, c'est cette faille qu'elle introduit, en même temps de façon réaliste, dans la réalité ou dans le vraisemblable, et la façon dont elle nous donne à penser que l'espace dans lequel on évolue est un espace fantasmatique, un espace de l'illusion, un espace factice, ce qui me renvoie aussi donc à la question du cerveau que j'avais évoqué tout à l'heure, mais en parlant simplement des lieux, et du fait que ces lieux-là, peut-être qu'ils n'étaient pas des lieux tout à fait ordinaires, mais qu'ils étaient des lieux conscience, des lieux qui précédaient en quelque sorte le personnage, qui le regardaient, qui le devançaient, et que la conscience, finalement, sortait, s'extrayait des personnages pour les envelopper. Alors, la question donc que je voudrais aborder maintenant, c'est est-ce qu'on peut parler de cinéma du cerveau pour Lynch, pour Gus Van Sant, pour Haneke, comme Deleuze proposait de le faire pour Stanley Kubrick? Et j'examinerai d'abord le cas de Lynch, parce que la réponse semble tout à fait claire dans son cas. C'est-à-dire que le cinéma de Lynch puisse être tenu pour un cinéma du cerveau, ça paraît clair dès Eraserhead, ou aussi au travers de films comme Lost Highway, comme Mulholland Drive, Twin Peaks, Inland Empire, tous ces films paraissent le confirmer dans la mesure où chaque fois Lynch nous plonge dans un univers mental jusqu'à un point d'indistinction du dedans et du dehors tel que celui décrit par Gilles Deleuze. Et en même temps, Deleuze proposait de distinguer un cinéma du cerveau et un cinéma du corps, Cassavetes par exemple. Et dans le cas de Lynch, on se prend là du coup à hésiter parce qu'il faut le situer. C'est-à-dire qu'il paraît impossible chez Lynch de trancher entre cinéma du corps et cinéma du cerveau, tant chez Lynch, le cerveau, justement, est réellement envisagé comme un organe, non pas, justement, comme un processus abstrait, qui serait celui d'une intelligence artificielle, désincarnée, mais véritablement comme un organe, inscrit dans un corps, participant du corps, et le corps, à son tour, étant envisagé par Lynch comme un modelage plastique de force psychique, de sorte que la relation entre le cerveau et le corps paraît ici, les deux termes paraissent vraiment inextricables. Si on limite notre réflexion sur le corps à la partie supérieure, c'est-à-dire à la tête, on pourrait